Avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
Bienvenue dans notre premier épisode, un nom en minuscule pour une vie en majuscule. Je pense que c'est un peu la marque des livres de Bell Hooks. Ils peuvent parler de bouddhisme, puis de gangsta rap. Il peut y avoir toutes sortes d'associations d'idées. Et je pense que l'excitation que beaucoup de gens ressentent face aux livres de Bell Hooks, c'est qu'ils se disent « Mon Dieu, elle rassemble ces choses qu'on n'aurait jamais pensé rassembler ». C'est toujours surprenant d'entendre quelqu'un parler ainsi de soi à la troisième personne, comme est d'ailleurs souvent surprenante la première rencontre avec ce nom, Bell Hooks, écrite intégralement en minuscules. C'est que Bell Hooks est née Gloria Watkins et choisit de prendre un pseudonyme pour distinguer sa personne de son œuvre et de sa pensée. Et pourtant, cette personne, nous la découvrons au fur et à mesure de la lecture de ses textes, dont le style si particulier mêle développement théorique et fragments de vie. Et quelle vie que celle de Bell Hooks, une vie qui nous conduit de la marge au centre et retour. Une vie, une femme et une œuvre que je vous propose de découvrir dans ce premier épisode grâce à mes deux invités. Avec moi en studio, Axel Janjike, bonjour.
Bonjour.
Axel Janjike, vous êtes autrice afro-péenne, dramaturge, documentariste et podcasteuse, ça n'est pas facile à dire. Vous avez notamment préfacé l'ouvrage « Maman et moi et maman » de Maya Angelou qui vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc. Et vous venez également de lancer à la Maison de la Poésie à Paris un cycle de littérature érotique féminine intitulé « Oui ». Et à distance, depuis New York où vous travaillez, bonjour Fania Noël.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, essayiste et militante afro-féministe et chercheur en théorie politique et sociale à la City University de New York. Vous avez notamment préfacé deux ouvrages de Bell Hooks, Cultiver l'appartenance, qui est apparu en 2023 aux éditions Cambourakis, et Culture insurgée, à paraître chez Payot le 27 août prochain. Je l'ai donc dit rapidement en introduction, Bell Hooks est née sous le nom de Gloria Watkins en 1952 à Hopkinsville dans le Kentucky. Et elle adopte donc ce nom de plume, Bell Hooks. Je vous propose qu'on commence par là notre discussion parce que le choix de ce nom en dit déjà assez long finalement sur ses origines, sa famille et plus précisément encore sur son lien avec les femmes de sa famille. Est-ce que vous pouvez nous dire, Axel Janjike, à quoi, ou plutôt à qui, renvoie le nom que Bell Hooks s'est choisi?
Il renvoie tour à tour à sa mère et à sa grand-mère. Elle s'inscrit dans une filiation par les femmes de sa famille. Et ce n'est pas anodin quand on voit le travail qu'elle livre après et cet intérêt pour le sort des femmes, toutes les femmes et particulièrement les femmes noires. Et c'est une manière de s'inscrire dans une transmission.
Elle s'inscrit en effet dans une transmission avec ses femmes de sa famille. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu peut-être sur le contexte familial? C'est une famille qu'elle qualifie à plusieurs reprises de dysfonctionnelle. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Comme toutes les familles, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a une famille qui est saine, vous me tenez au courant. En tout cas, elle est une famille pourvue de névroses. Et ces névroses prennent des formes multiples et diverses. Elle, en l'occurrence, elle va en faire les frais d'une manière assez poignante. Et c'est quelque chose qui est surprenant à lire parce que on n'a pas l'habitude de voir ainsi qualifier des familles afrodescendantes et les traitements que peuvent avoir lieu au sein de ces familles, mais c'est quelque chose qui permet aussi de mettre en lumière d'une autre façon, il me semble, l'œuvre qu'elle va livrer par la suite, parce que ça puise vraiment à cet endroit-là, et si elle nous parle peut-être aussi bien d'amour, c'est peut-être parce qu'elle en a manqué.
Oui, nous allons y revenir. Fania Noël, je voulais revenir avec vous également sur le milieu social dans lequel elle vit. À quel milieu appartient-elle?
Alors, dans tout son travail, aussi quand elle essaie d'expliquer la façon dont elle a grandi, je pense qu'il faut voir son milieu social pas détaché l'organisation raciale de la société, surtout de là où elle vient, du sud, ou bien que, on va dire que ses parents viennent du très bas, hein, de la classe moyenne, ou du très haut, de la classe populaire, leur assignation raciale, du fait qu'il soit noir, mais aussi du fait qu'elle est aussi descendante des personnes indigènes des États-Unis, autochtones des États-Unis, fait qu'elle est incarcérée dans un manque de mobilité. Et ce qu'elle dit dans le livre Cultiver l'appartenance, qu'elle a grandi dans une peur de la terreur blanche, malgré la mobilité sociale qu'elle pouvait avoir, et aussi plus de mobilité ou de marge avec les moyens économiques. Et je pense que ça explique pourquoi, quand elle est allée, où elle a eu vraiment cette impulsion, elle dit dans l'introduction de Culture insurgée, de quitter le Sud, d'aller loin, de quitter les États-Unis, d'aller en Europe, d'avoir toute cette fantaisie, et qu'elle est arrivée dans le nord des États-Unis, où elle pensait que ça allait être un endroit dénué de racisme, où aller en Europe et penser qu'il n'y avait pas de racisme, où elle pouvait être encore plus mobile, elle s'est rendue compte que cette limitation la suivait partout, avec des modalités différentes en Europe ou dans le Connecticut, où elle est allée elle a fait carrière et fait ses études dans des Ivy League, c'est-à-dire Yale University et d'autres universités comme celle-ci.
Oui, on va revenir sur cette mobilité, notamment géographique, que vous venez d'évoquer. Pour parler de l'enfance de Bellux, je vous propose qu'on écoute la lecture d'un extrait du premier tome de ses mémoires, Noir d'os, premier volume, qui porte sur son enfance et son adolescence.
Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, nombre de travaux féministes insistent sur l'importance de l'enfance en tant que période de la vie durant laquelle les petites filles se sentent libres et puissantes. La différence entre nos corps et ceux des garçons n'est pas encore tout à fait tranchée, et nous rivalisons alors largement en énergie avec eux, quand nous ne l'emportons pas. Mais l'expérience des filles noires dans la société n'est pas suffisamment connue. L'un de mes romans préférés au monde n'est autre que « L'œil le plus bleu » de Toni Morrison. J'étais encore adolescente quand j'ai découvert ce texte. Tout mon être en a été ébranlé. Là, dans ce récit fictionnel, étaient contenus des fragments de mon histoire, de mon enfance en tant que fille noire. Ayant toujours été une lectrice obsessionnelle, ces lacunes de la littérature ne m'avaient pas échappé. Et voir cette période de nos vies ainsi reconnue produisait un effet merveilleusement galvanisant. Mon existence allait sortir à jamais changée de cette lecture.
C'était donc un extrait de Noir d'os qui a apparu chez Plon dans une traduction de Lorraine de Lavaux, lue ici par Marie Sona Condé. Alors cette évocation de cette vie de petite fille, de cette place si difficile à trouver de petite fille, c'est au cœur en fait de ses mémoires justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Axel? Et peut-être d'ailleurs pour commencer, ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est aussi important que nous ayons ces textes qui restituent la vie, ou en tout cas une partie de la vie de Bellux, pour éclairer aussi son travail théorique?
Parce qu'on a un déficit en matière de textes illustrant l'intime des personnes noires, et particulièrement des femmes noires, et ô combien des petites filles noires. C'est pas un hasard qu'elles soient... qu'elle cite L'œil le plus bleu de Toni Morrison, parce que je pense que c'est exactement ce qu'elle dit. C'est un des premiers textes dans lesquels elle se reconnaît. Moi, ça a été Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, parce que c'est elle qui ouvre la voie à ces récits-là où elles sont en mesure de dire je, même si le texte de Morrison est un texte fictionnel. Il n'en demeure pas moins qu'on est à un endroit où, encore aujourd'hui, faire valoir l'intimité et l'intériorité des personnes noires ne va pas de soi. Donc, à 30 ans de distance, avoir accès, parce que ça fait 30 ans que ça a été publié, je tiens à le dire, avoir accès à ces deux volumes de ses mémoires, c'est presque repartir à zéro dans la lecture de ce qu'elle a produit par la suite, parce que ça établit un départ, en tout cas une origine, un point de vue situé qui nous auxquelles on n'avait pas eu accès, en fait, jusqu'à maintenant. Et je sais que cette phrase est galvaudée, mais tant pis, je vais la dire quand même. Et à quel point l'intime est politique. Voilà. Donc, tout ce qu'elle peut dérouler par la suite dans sa pensée est quand même né de la manière dont elle est, dont elle ressent, en tout cas, enfant, adolescente et jeune femme, l'intimité, les interactions avec ses proches, sa famille, son compagnon, Mac, dont il est question dans Rouge Feu, qui pour moi est un connard fini, mais c'est une opinion personnelle, mais à qui on doit le fait de l'avoir encouragé à se mettre à la rédaction à 19 ans de « Ne suis-je pas une femme ?» dans tout ça, c'est rarement des femmes noires qui illustrent des passages de vie de cet ordre-là. Et c'est remarquable pour ça.
Oui, donc je précise en effet, comme vous l'avez dit, le deuxième volume de ses mémoires est intitulé Rouge Feu et apparu également chez Plomb. Fania Noël, je vous pose la même question, c'est-à-dire tout le récit de Noir d'Os est tourné autour de cette question de la place. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la place dans un ordre racial. D'une manière générale, comment est-ce que vous concevez cette question de la place comme centrale pour fonder en fait le travail, l'œuvre, la pensée que Bellux va développer par la suite?
Je pense que c'est ça illustre quelque chose qui est en écho, hein, comme en tant que sociologue, et je crois au déterminisme intégral. Je pense qu'on regarde le parcours de Bell Hooks, mais le parcours d'autres black féministes, de féministes noires de son qui sont un peu plus âgées qu'elle, mais aussi de son époque, on voit les mêmes on voit des choses qui se répètent, c'est-à-dire des questions de où est-ce qu'est ma place, comment je trouve ma place dans les différentes modalités de violence, qu'elles soient raciales, imbriquées, misogynoires, patriarcales et de classe, comment je fais communauté avec les autres femmes qui m'entourent, les autres filles et les autres femmes, et comment j'arrive à pardonner ou à guérir la relation que j'ai avec la première figure de femme, ma mère, par exemple Barbara Smith, ou les grandes autrices des féminismes noirs, et Patricia Hill Collins l'explique dans son livre La pensée féministe noire, elle a un chapitre qui est sur la relation des femmes noires avec leur mère et sur la maternité noire, et sur le fait que elle a très bien expliqué que l'ambivalence est que les femmes noires en même temps sont obsédées par protéger leurs filles de ce qui va leur arriver, et dans cette obsession de protection un retrait d'affection et de care dans une façon dont on voit, pour les préparer à affronter la violence. Et je pense que on peut voir dans le travail de Bell Hooks, mais dans le travail de Toni Morrison, de Audre Lorde et d'autres féministes noires, la façon de déployer un corpus théorique qui est pour la libération collective, mais qui fonctionne aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces relations et pourquoi ces relations n'ont pas été à l'image de ce que de la fantaisie de la maternité dans un monde violent, et comment ces femmes, leurs mères, ont fait ce qu'elles ont pu la plupart du temps pour les préparer à la violence, mais que malgré cette pré-préparation, elles n'étaient pas préparées à ça. Donc, chose qu'on peut le voir dans ce qui est d'un apprentissage de la condition, mais de la condition dans la relation avec cette première figure féminine, et d'essayer de faire une investigation, une introspection de qu'est-ce qui s'est passé là et comment on peut le redresser, le guérir, et comment on peut se servir de ça pour créer un corpus idéologique, théorique, mais aussi littéraire, qui serve au plus grand nombre et qui serve un mouvement politique.
Toni Morrison, que vous avez évoquée, qui évoquait le texte que nous avons entendu, sur laquelle elle fait sa thèse. Je reviens un petit peu à Noir d'Os, Axel Janjike. Dans Noir d'Os, on voit aussi que cette place qu'elle cherche dans sa famille, dans la société, elle la trouve par la lecture.
Oui, et auprès de sa grand-mère, qui est une figure positive.
Oui, tout à fait.
Sa mère ne l'est pas, mais sa grand-mère, heureusement, est là. Et quant aux modalités, enfin, ce rapport aux mères est un rapport qu'on voit aussi qui peut être d'un autre ordre dans Maman et moi et maman de Maya Angelou, où elle revient sur la relation avec sa mère Vivienne Baxter et où il s'agit d'une relation solaire et généreuse.
Et là, on va peut-être rester sur Belle Hooks,
mais c'est juste
bien.
Pour rebondir sur ce que disait Fania Noël, je pense que c'est pas forcément que des relations qui prêtent en fait à la violence ou à la maltraitance, parce que là on est dans ce il est quand même question de maltraitance beaucoup dans Noir d'Os. Il faut appeler les choses par leur terme. Et Belle Hooks, son travail a été vraiment de nous apprendre à dissocier maltraitance et amour, en fait.
Et il y a une ambivalence, en effet, dans son rapport à sa mère.
Absolument.
Mais il y a en effet une forme de dureté, de sévérité qu'elle va déployer également dans les textes qu'elle consacre à l'amour au sein des communautés noires. Je reviens juste rapidement sur la question que je vous posais, c'est-à-dire la place que joue la lecture, la poésie, beaucoup, qui est très présente dans Noir d'Os. Elle écrit elle-même de la poésie qui, malheureusement, n'est pas traduite en France. Est-ce que vous pouvez nous dire
C'est son lieu de refuge et c'est l'endroit où elle arrive à dire « je », où elle a le sentiment d'être un être à part entière, où elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Et comme pour comme pour beaucoup d'autrices, c'est aussi l'endroit où on peut se déployer et où on peut être nous-mêmes. Et Belle Hooks n'échappe en fait pas à la règle.
France Culture, avoir raison avec Belle Hooks. Aïda Ndiaye.
On a déjà entendu dans la première lecture l'évocation de la question de la place ou de la position des petites filles noires et plus généralement d'ailleurs des femmes noires dans la littérature, la société en général. Je voudrais qu'on revienne sur cette question qui est évidemment centrale dans l'œuvre de Belle Hooks et qui est aussi au cœur du texte que nous allons entendre de nouveau, une lecture de Marie-Sona Condé.
Dans son célèbre récit d'esclaves de 1845, Frédéric Douglass raconte l'histoire de sa naissance, celle de sa mère noire esclave, travaillant à une distance considérable de son lieu de résidence. Décrivant leur relation, il écrit « Je n'ai jamais connu ma mère ou pu la voir plus de 4 ou 5 fois dans ma vie, et à chaque fois ce fut très court et de nuit. Elle faisait des voyages pour me voir dans la nuit, parcourant la distance à pied après ses journées de travail. C'était une ouvrière agricole et le fouet était le châtiment qui l'attendait si elle n'était pas dans les champs au lever du soleil. Je ne me souviens pas d'avoir vu ma mère à la lumière du jour. Elle était avec moi pendant la nuit. Elle se couchait avec moi et me faisait dormir. Mais bien avant que je me réveille, elle était déjà partie. Après avoir partagé cette information, Douglass dit plus loin qu'il n'a jamais ressenti la présence apaisante, les soins tendres et attentionnés d'une mère, de telle sorte qu'il a reçu l'annonce de sa mort avec à peu près les mêmes émotions que j'aurais probablement ressenties à l'annonce de la mort d'un étranger. Douglass était sûrement mu par la volonté de faire appel à la conscience des lecteurs blancs face à la cruauté de ce système de domination raciale qui séparait les familles noires, les mères noires, de leurs enfants. Pourtant, il le fait en dévaluant les femmes noires. Incapable de reconnaître dans les kilomètres parcourus par sa mère pour le tenir dans ses bras, une forme de soin. Je ne peux qu'être en désaccord avec Douglass lorsqu'il dit n'avoir jamais connu les soins d'une mère. Cette mère, qui a osé le serrer dans ses bras la nuit, lui a donné dès la naissance un sentiment de valeur qui a sans doute posé la base, aussi fragile soit-elle, de l'émergence de la personne qu'il est devenu.
C'était donc une lecture d'un extrait de Homeless, A Site of Resistance, qui est issu du texte Yearning Race, Gender and Cultural Politics, que je vous lis en anglais parce qu'il n'est pas encore disponible en français. C'est votre traduction, Fania Noël, que nous avons entendue, puisque c'est vous qui nous avez proposé ce texte. Je précise juste à nos auditrices et auditeurs que Frédéric Douglas est un journaliste qui est né esclave et qui fut une figure de la lutte pour les droits civiques. Fania Noël, comment est-ce que ce texte nous montre d'une manière exemplaire en quoi est-ce que la position des femmes noires est nécessaire et va résonner ensuite dans toute l'œuvre justement de Bell Hooks?
Oui, en fait j'ai partagé ce texte, ça revient avec ce que je disais précédemment hein, sur la relation des femmes noires avec la maternité, le fait d'être une mère. Et ce que je disais, c'est que il y a l'attachement à l'esthétique de la maternité, c'est-à-dire le quand Frédéric Douglas, l'attachement du maire, qu'est-ce qu'il veut dire par l'attachement du maire? C'est-à-dire qu'il a un ensemble d'images de qu'est-ce qu'est l'amour maternel, et dans des situations de surveillance par l'État, de racisme systémique, on parle là de la mère de Frédéric Douglas qui est esclave. Comment la maternité peut se déployer dans l'esthétique de la maternité qui a été construite pour des personnes libres. Donc, quand je parle du rapport des féministes noires à leur mère et à comprendre ça, ce n'est pas parce que c'est que de la violence, mais c'est parce que le soin, le type de soin qu'elles peuvent donner est toujours encadré par des formes de domination. Et je pense que ça fait beaucoup écho à ce que Bell Hooks dit sur le fait de la dévaluation du risque qui est pris, du sacrifice qui a été pris par beaucoup de femmes noires dans les mouvements des droits civiques, dans le mouvement de libération et de l'abolition de l'esclavage dans les mouvements partout dans le monde pour la liberté, mais qu'elles sont effacées et qu'on ne retient que les noms d'hommes et l'héroïsation, alors que je pense que ça fait écho avec le très très beau film de Alice Diop, le Saint-Omer. Vous savez, la journaliste, sa mère, elle est comme un spectre. J'avais écrit un article sur ça, sur le lexique spectral de ce film, où il y a tous ces silences entre elle et sa mère, mais à la fin, quand sa mère elle dort à côté d'elle, que il y a une forme de compréhension de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a choisi de faire, et même la mère dans ce film hein, de l'accuser, qui on a beaucoup de choses à lui reprocher, mais elle vient au procès. Elle vient quand même au procès de sa fille. Donc je pense que c'est ça que j'essaye de dire dans ces relations compliquées, c'est comment on peut juger des relations entre les mères et les filles dans des cadres qui ont été faits pour convenir à une certaine esthétique de personnes qui ne sont pas aussi surveillées, encadrées, dominées par la société. Et je pense que ça fait écho à l'actualité où il y a beaucoup de gens qui jugent les femmes qui dorment actuellement dans la rue devant l'hôtel de ville avec leurs enfants comme si elles avaient d'autres choix. Et elles sont jugées sur l'esthétique de ce qu'on pense être une maternité qui protège et qui se sacrifie, sans voir que faire ça, qui est une mobilisation politique, c'est aussi une forme de sacrifice.
Fania Noël, vous enseignez aux États-Unis, vous travaillez aux États-Unis. Quelle position a Bell Hooks dans le champ académique, universitaire aux États-Unis, peut-être en comparant aussi avec sa position en France, où elle apparaît comme l'autrice, si je puis dire, du féminisme noir, appelons-le comme ça pour l'instant. Quelle est sa position aux États-Unis?
Alors, aux États-Unis, qui souffrent un peu moins hein, du marché de la rareté sur les études noires que souffre la France, Bell Hooks fait partie d'un panthéon d'autrices, d'intellectuelles, d'artistes féministes noires, qui sont nombreuses. Il y en a qui sont plus connues qu'elles, hein, c'est-à-dire que si dans la pop culture, on va dire, on parle plus de Maya Angelou, qui a même eu sa tête sur une pièce, ou de Toni Morrison et même Audre Lorde. Donc, elle fait partie d'un vaste syllabus d'autrices, et ça va dépendre de à qui vous demandez. Par exemple, si vous allez vers les organisations de féminisme noir, ou vers les universitaires, ou vers les artistes, ils vont vous dire des noms différents, mais dans la société mainstream, son livre hein, sur l'amour et sur la volonté de changer est ce qui est le plus diffusé en termes de livres féministes accessibles au grand public. Je pense que le fait qu'elle soit aussi connue en France et aussi de ce fait-là, c'est que elle a deux livres qui vont vraiment avec le démographique qui essaye de changer le plus, alors que je pense que c'est pas ce démographique qui a besoin de changer le plus, mais ce serait plus les hommes, c'est-à-dire oui, les femmes.
On va y revenir. Je voudrais juste demander à Axelle Djandjike ce qu'elle pense justement de la position de Bell Hooks en France. Vous avez travaillé, Axelle Djandjike, notamment dans votre série Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, sur les féminismes afrodescendants francophones. Mmh. Est-ce que on peut dire que le féminisme de Bell Hooks fait un petit peu écran à ces féministes là, comment est-ce que vous la situez, et en effet comment est-ce que vous expliquez son succès en tout cas d'édition, de librairie en France?
Il faut savoir que quand on parle de Bell Hooks, on fait beaucoup référence en France à l'intersectionnalité, en disant qu'elle a posé les jalons de l'intersectionnalité, en sachant qu'elle les a posés avec Awa Thiam, écrivain sénégalaise, anthropologue sénégalaise, qui a écrit dès 1978 un texte qui s'appelle La parole négresse, dans lequel il était question de cette notion.
Et je vous interromps juste une petite seconde pour préciser à nos auditrices et auditeurs, ne suis-je pas une femme, ça date de 1981, juste pour situer.
Voilà
je vous laisse reprendre.
Allez-y. Donc elle a précédé, enfin Awa Thiam a précédé Bell Hooks sur cette notion-là, qui l'a portée elle aussi plus loin, mais c'est pas une nouveauté en fait dans l'art francophone. Et ce qui ressortait de cet épisode de Je suis noire, j'aime pas Beyoncé, qui est le troisième épisode et qui était un propos tenu par Gertie Dombery, qui faisait partie de l'historique coordination des femmes noires, parce qu'il y a une histoire du féminisme noir francophone, même sur le territoire français, qui était très méconnue, c'est qu'effectivement, il était plus attrayant pour les éditeurs français de porter attention au travail des noires américaines plutôt qu'à celui des francophones. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas. Je vais pas prétendre le contraire, même si on récupère des textes à 30 ans d'écart.
Voilà, et ce qui n'enlève rien à la beauté des textes de Bell Hooks, à leur caractère nécessaire, et nous allons en parler toute cette semaine. Merci à vous deux, Axelle Djandjike et Fania Noël. C'est déjà fini. Toutes les références de vos travaux ainsi que la réécoute de cette émission et de toute notre série sont à retrouver sur franceculture.fr, à la page de l'émission et dans l'application Radio France. Hey. Vous pourrez également retrouver un cahier central consacré à Bell Hooks dans le prochain numéro de Philosophie Magazine, apparaît le 21 août prochain. Cette émission a été réalisée par Taïsia Froidure, prise de son Jean-Guilain Meige. Merci à Marie-Sona Condé de prêter sa voix à Bell Hooks toute cette semaine. Demain, notre deuxième épisode prolongera notre discussion d'aujourd'hui sur le féminisme de Bell Hooks. Et je serai en compagnie de Pamela Ohene-Niaco et de Marie-Julie Chalut. À demain.